Bien, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette rencontre et ce départ pour le lointain, puisque c'est l'intitulé de la rencontre, Destination lointaine. Ce sont les lointains qui vont donc donner la mesure de cette rencontre avec trois auteurs qui sont grands voyageurs, en tout cas inspirés et nourris par l'ailleurs, et puis qui ont aussi en commun, et ça c'est très intéressant, d'avoir des textes qui constituent aussi des références, voire des hommages, à d'autres qui les ont précédés et qui ont arpenté avant eux les lointains qu'ils explorent. Je fais des toutes petites présentations pour commencer. Mathias Sénard, romancier et traducteur, vous avez étudié le persan et l'arabe et effectué de très nombreux séjours au Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur notamment de La perfection du tir, qui en 2003 avait reçu le prix des 5 continents de la francophonie, auteur de Zone, 2008, prix décembre et prix du livre inter, auteur également de Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants en 2010, Goncourt des lycéens, tous parus chez Actes Sud, et votre dernier roman, chez le même éditeur, s'intitule Boussole. Christian Garcin, auteur de nouvelles, de poèmes, d'essais, votre premier roman paru en 2000 s'intitulait Le vol du pigeon voyageur, et depuis il y a eu entre autres Sortilège, La piste mongole ou bien encore Des femmes disparaissent, ainsi que des nouvelles, des essais et des carnets de voyage. En 2013, chez Stock était paru Les nuits de Vladivostok, un roman, et cette année aux éditions La Baconnière, c'est un récit qui s'intitule Le Lausanne, Moscou, Pékin. Daniel de Roulet, écrivain formé à l'architecture, vous vivez pas loin d'ici, à Genève, et vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, alors des romans, parmi lesquels Le démantèlement du cœur en 2014, mais aussi des chroniques, comme un recueil qui s'intitule Légèrement seul, paru chez Phébus en 2013. Et cette année, chez le même éditeur, donc chez Phébus, est paru Tous les lointains sont bleus. Alors, vous êtes relié par ce thème de l'ailleurs et du lointain, mais alors c'est intéressant parce que, au niveau de la forme littéraire, il y a un roman, un récit et des carnets de voyage, donc une façon d'aborder l'ailleurs assez différente. Christian Garcin, si on commence à parler du Lausanne, Moscou, Pékin, donc vous partez en décembre 2013 avec une équipe d'ailleurs de la radio suisse romande. Et sur les traces d'un voyage fameux et mythique, qui est le voyage de Blaise Cendrars, donc la prose du Transsibérien étant parue en 1913, c'est un siècle plus tard. Et dès qu'on entre dans votre texte, il y a une première chose qui frappe immédiatement, ce sont les noms des lieux, les noms de gare qui sont comme ça égrenés au fur et à mesure, de telle sorte que d'emblée le voyage se fait dans les noms. Les mots, les noms de lieux font aussi voyager. Hein.
Ah oui, oui, bien sûr. On voyage d'abord là-dedans, hein, j'imagine. Enfin, en tout cas, lorsque j'étais jeune, enfin enfant ou adolescent, que je n'étais pas encore beaucoup sorti de chez moi, les noms de lieux me faisaient rêver. Bien entendu, on voyage dans les noms avant de voyager dans les lieux, bien entendu. Et puis l'imaginaire qui se déploie à partir d'un nom, parfois on peut le confronter à la réalité du lieu sans qu'il y corresponde réellement. Je veux dire, est-ce que la réalité est au-dessous ou au-dessus de ce qu'on imaginait ? C'est une affaire de ça dépend, en vérité. On pourrait être déçu, parfois, parce qu'on imagine souvent des choses beaucoup plus... Il y a des noms qui font rêver. Ulan-Bator, c'est un nom qui fait rêver.
C'est un bel exemple.
Mais alors, voilà, c'est qu'Ulan-Bator...
Moi qui ne connais pas Ulan-Bator, je peux vous dire que ça me fait vraiment rêver, ce mot-là.
Non, vous avez raison. Mais alors, Ulan-Bator, la plupart des gens qui sont allés vont vous dire « Oh, c'est... Vraiment, c'est moche. Hein. C'est laid, c'est une ville bétonnée, des grandes avenues, etc. » Alors, j'y suis allé. C'est pas joli, c'est vrai. Mais il y a des laideurs pas inintéressantes. Quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose... D'abord, on est à Ulan-Bator. C'est comme Freud, quand il est sur l'Acropole, il se dit « Bon sang, je suis sur l'Acropole. Voilà. » Quand on est à Ulan-Bator, ou sur la muraille de Chine, ou, je sais pas, ou à Valparaiso... Ou à... On se dit, bon sang, je suis. Hein, c'est pas rien d'être dans le lieu, dans ce diamant noir qu'on avait dans la tête depuis tant d'années et qui scintillait dans ce lieu sur lequel on avait plus ou moins fantasmé. On se retrouve à cet endroit-là. Et du coup, ce qui peut être banal ou ou pas forcément esthétique. Enfin, ça se discute encore, parce que Ulaanbaatar, finalement, c'est bien sûr qu'il y a des grandes avenues qui sont qui n'ont pas un intérêt phénoménal, mais il y a aussi le bruissement de la foule, de la foule modérée d'ailleurs, Ulaanbaatar, mais enfin, qui est tout à fait différente d'une autre. Il y a ces ciels immenses qui sont des ciels mongols, il y a ces collines autour de la ville qui dessinent des ondulations verdoyantes comme ça. Il y a cette atmosphère, cette lumière qui est différente de celle qu'on connaît. Enfin, c'est quelque chose qui de toute façon, nous transporte ailleurs, sans parler de l'écriture, sans parler des sons, sans parler de... Enfin, etc. Donc, voyager dans les noms, c'est évidemment ce qui précède le voyage réel, mais après, la confrontation des deux, ce n'est pas inintéressant non plus. Mmh. Et évidemment, en ce qui concerne les villes en question, les villes que relie le Transsibérien, ce sont les vers de Sandrard qui les énumère lui-même dans la prose, donc je reprends dans le texte.
Oui, vous ouvrez chaque chapitre, effectivement, avec une citation. Mais à propos de la confrontation avec le réel, vous citez cette phrase magnifique de Ségalène qui disait « L'imaginaire déchoit-il ou se renforce-t-il quand il se confronte au réel ?» C'est exactement la question que vous abordez au fond dans ce récit.
Oui, mais c'est la question du voyage en général, et puis c'est la question de la vie en général, de toute façon.
Aussi, oui, effectivement. Alors, entre 1913 et 2013, vous essayez de tenir une sorte d'écart, en vous référant sans cesse à Sandrard, mais en évoquant toutes sortes d'autres auteurs. Alors, il y a Pouchkine, il y a Bulgakov, il y a Gogol, et puis il y a Olivier Rolin, que vous croisez. Alors là, on change de... croisez à Moscou, je crois.
En fait, non, oui, c'est-à-dire que ce voyage, donc, était pour la radio suisse, pour Espace 2, au départ. Enfin, pas au départ, à l'arrivée aussi. Et il y avait de multiples contraintes, c'est-à-dire que moi j'avais embarqué dans ce voyage pour réaliser des chroniques radio qui ont été diffusées au mois de janvier ensuite, au retour. Mais on les enregistrait régulièrement dans le train au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il y avait. C'était pour deux émissions, une qui s'appelle Entre les lignes, l'autre qui s'appelle Musique d'aujourd'hui, je crois. Enfin, donc un producteur d'émissions littéraires, un producteur d'émissions musicales, une traductrice et puis. Didier, un autre type qui s'occupait de tout ce qui était technique, qui avait une malle qui devait peser 40 kilos, qu'on n'arrivait pas à soulever seul, il fallait la trimballer dans le train, se mettre à trois pour la porter chaque fois. Et on a enregistré dans le wagon les chroniques. Donc ces chroniques orales, faites pour la radio, ont été un peu réécrites, et c'est ce qui a donné matière au livre qui a été publié. Donc voilà. Et les contraintes étaient multiples, c'est-à-dire qu'il fallait évoquer à la fois 1913, 2013, Sandrard, la géographie des régions qu'on traversait, dans la mesure du possible, l'histoire, la littérature, les rencontres, etc., etc. Et puis les rencontres, il est vrai que je me trouvais donc à Moscou au début, avant d'embarquer, et puis j'apprends de manière tout à fait incidente qu'Olivier était... Je me retourne vers Mathias parce qu'il connaît bien aussi.
Il aurait pu être là aussi.
D'ailleurs, qu'est-ce que tu foutais? T'étais où, toi?
J'avais déjà fait, moi, le voyage.
J'avais écrit aussi
pour la radio.
Et donc, j'apprends qu'Olivier Rollin est à ce moment-là à Moscou. Donc j'envoie un mot, etc. On se donne rendez-vous. L'endroit où on se donne rendez-vous, c'est un restaurant où il a ses habitudes, qui est au rez-de-chaussée de l'appartement où vivait un autre ami russe qui est mathématicien et poète. Enfin, des tas de coïncidences comme ça qui se sont relayées pendant tout le voyage, pendant tout ce séjour à Moscou, et notamment des rencontres inopinées qui ont nourri finalement le texte lui-même.
Alors, beaucoup de choses ont changé, bien sûr, entre l'époque où Sandrard a fait son voyage et puis le vôtre. Il y a peut-être une seule chose qui n'a pas bougé, ce sont les paysages. C'est eux qui assurent, au fond, la pérennité dans cette histoire-là.
Sans doute, oui. Enfin, les paysages n'ont pas beaucoup bougé. D'ailleurs, ce n'est pas de paysage qui bouge beaucoup en soi. C'est extrêmement monotone, le Transsibérien. Hein. Du moins, la première partie jusqu'à après Irkoutsk, enfin, pendant les deux tiers du voyage, disons, c'est relativement monotone. Même le passage de l'Oural est assez... on passe au sud de l'Oural, c'est pas un peu vallonné, mais sans plus. C'est essentiellement, on traverse des forêts, des mélèzes, des bouleaux, des mélèzes, enfin, des plaines fluviales. C'est une grande monotonie. Effectivement, c'est ce qui n'a sans doute pas bougé autour du Baïkal, c'est magnifique, mais cette monotonie n'est pas ennuyeuse, quoi. Elle est simplement monotone, et la monotonie, c'est pas inintéressant non plus en soi. En tout cas, on s'ennuie pas du tout, parce que cette espèce de répétition de l'infini, comme ça, cette répétition, comment vous dire, on accède à une vision qui est une vision de l'esprit, non pas une vision des yeux, c'est-à-dire que si on se fie uniquement à la vision oculaire, on voit bien qu'on traverse des forêts, par exemple, et qu'on voit en sans arrêt un paysage de bouleaux et de mélèzes, et en alternance. Mais il y a aussi, quelque part en nous, une espèce de vision d'aigle qui voit le train qui avance au milieu de la taïga, qui voit le train qui avance au milieu de cet espace où il y a 5000 km autour qui ne sont que des kilomètres de taïga, de fleuves et de lacs. Et cette notion de l'infini, on l'a par la mesure de l'esprit, on l'a pas par la mesure de l'œil qui est vite fermée. Enfin, la mesure de l'œil est vite bloquée par justement les rideaux d'arbres qui défilent devant les fenêtres. Et cette extrême monotonie crée une sensation mentale d'infini, vraiment, d'immensité, quoi, l'immensité de la taïga russe au milieu de laquelle on avance. Et donc ces paysages effectivement n'ont pas énormément changé, les campagnes russes n'ont pas énormément changé, mis à part qu'elles sont plus désertes qu'avant, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vivent dans la campagne russe. C'est un vrai problème démographique en Russie d'ailleurs, l'abandon des campagnes. Et voilà, quant à Sandrar, le voyage, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait quand même.
Hein. Oui, ouais, c'est ouais, ça, il ouais, y a des doutes. Ouais. Hein, ouais.
Bah oui,
il ouais, y a de forts doutes.
Clairement, clairement des doutes.
Ouais. Ouais. Ben, c'est peut-être alors une belle façon de passer le relais avec Mathias Sénard, parce que finalement, si on reprend la phrase de Ségalène, l'imaginaire déchoit-il ou se renforce-t-il quand il se confronte au réel, dans Boussole, c'est de toute évidence l'imaginaire qui prévaut, puisque votre personnage voyage à l'intérieur de sa chambre, enfin se remémore des voyages qu'il a effectués, mais il ne bouge pas d'un territoire qui est celui de la pièce où il vit. C'est un peu la référence au roman de Xavier de Maistre, en fait, hein, Voyage autour de sa chambre. C'est dans la mémoire qu'il refait donc des périples en Orient, enfin au Moyen-Orient plutôt.
Oui, effectivement, il est insomniaque, ce pauvre Franz, dans sa chambre à Vienne, dans son appartement même en entier, et il va parcourir comme ça un peu de ses souvenirs, donc il fait un peu comme tout le monde quand on dort pas, il finit par se lever, il regarde sa bibliothèque, il attrape un livre, il regarde une photo, une gravure, et tout ça c'est autant d'anamnèse, d'objets de mémoire qui vont l'amener à se rappeler ses voyages antérieurs, mais aussi ceux des autres, et construire comme ça effectivement un voyage autour de sa chambre. Vous parlez de Xavier de Maistre, alors je ne sais pas si c'est... Moi c'est vrai que c'était un livre qui m'a toujours fasciné, ce voyage autour de ma chambre. Mmh.
Titre est génial.
Le titre est génial, le livre est très bien aussi. Oui. C'est un Xavier de Maistre, alors lui voilà une vraie vie aventureuse, assez incroyable. Il n'est pas français, c'est un homme du XVIIIe siècle. Il est francophone, mais du royaume de Sardaigne et Piémont. Il est de ce qui serait aujourd'hui à côté de Menton. Et il va être donc au service d'abord du royaume de Piémont. Ensuite, il va devenir donc grand officier soldat en Russie, justement. Et il finira sa vie à Saint-Pétersbourg, assez âgé. Et entre-temps, il fait ce récit, et le voyage autour de ma chambre, qui est lui-même un hommage une réponse au grand livre de Stern, Les aventures de Tristram Shandy. Et donc alors que Tristram Shandy, c'est vraiment un vrai voyage avec beaucoup d'aventures et tout ça, lui il se dit, mais je vais faire la même chose, mais dans ma chambre. Et donc il parcourt son appartement en évoquant, alors évidemment, à cette fin du XVIIIe siècle, les voyages déjà commencent à être à la mode, c'est le début. Donc lui, il se moque de ça, de cette mode, en disant, mais en gros, mais qu'est-ce que vous voulez aller apprendre en Égypte, hein? Vous connaissez votre appartement, et ben c'est pareil. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai un petit sphinx sur ma cheminée qui me fait très bien le monde égyptien. Et c'est un roman assez fascinant et très drôle, justement, de modernité. Parce que ce qu'il arrive à faire en inscrivant tout son récit dans cet espace si réduit, c'est justement à s'en échapper d'une façon qui est finalement extraordinairement moderne.
Alors votre personnage donc est insomniaque, c'est sa première caractéristique. Il est musicologue, il est viennois et il est donc passionné et spécialiste de l'Orient, de telle sorte que Boussole nous fait partir pour Palmyre, pour Damas, pour Istanbul, pour Beyrouth, avec aussi quelques incursions en Iran. Et puis s'entremêle à ces au souvenir de ses voyages, l'évocation d'un amour qui est un amour inassouvi pour une jeune femme, qui elle, alors a comme caractéristique d'être une passionnée de ce qu'on appelle les fous d'Orient. Donc à eux deux, à travers ces deux personnages-là, on découvre toute une cohorte de gens qui ont sillonné l'Orient à toutes les époques. Quoi. C'est l'occasion pour vous d'évoquer tous ces grands voyageurs.
Alors grand,
enfin grand ou petit, mais... en tout cas voyageur.
Certains sont plus connus que d'autres. Mais disons que c'est aussi une façon de, il y a beaucoup plusieurs lignes comme ça, le roman se construit. Bon, donc sur dans cette nuit d'insomnie, aussi sur les souvenirs de la vie donc de Franz, c'est le portrait aussi de cette femme qu'il aime profondément, qui est donc qui s'appelle Sarah, et aussi une histoire un peu. De ce qu'on a pu appeler l'orientalisme, en tout cas de ce grand courant qui va, mettons, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe, et qui correspond à la grande diffusion, justement, des voyages, au début de cette tradition inaugurée par Chateaubriand, du voyage en Orient, ensuite de... l'avènement de ce qu'on pourrait appeler un peu les premières formes de tourisme, d'un côté, c'est-à-dire les premiers voyageurs qui ne sont pas des voyageurs professionnels, qui sont ni des explorateurs, ni des spécialistes de faune, de flore ou d'histoire, mais des gens qui voyagent pour rendre compte, pour leur plaisir, qui peuvent être des écrivains, mais aussi des peintres. Et tout ça va devenir de plus en plus fréquent au fur et à mesure du 19e siècle, jusqu'à le grand moment où là, vraiment, tout le monde est allé en Orient, tout le monde a voyagé, c'est les fêtes d'inauguration du canal de Suez dans les années 1890. Là, c'est vraiment l'apogée de ce mouvement de voyage qui se double d'un mouvement aussi plus scientifique qui avait commencé, lui, bien avant... la découverte, la traduction de textes littéraires, de récits historiques, de reconstitution des langues anciennes. Voilà. Tout ça, c'est un espèce de grand mouvement de connaissance et d'intérêt pour le Moyen et Proche-Orient qui va nourrir toutes les écoles scientifiques postérieures dont la dernière dont je suis issu, par exemple, l'École nationale des langues orientales, possède tout un immense annuaire de tous ces gens qui ont nourri la science et nous ont fait connaître, finalement, toutes les littératures, musique, poésie et romans de l'Orient. Et ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est aussi le destin de tous ces textes chez nous. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié, par exemple, que... on doit énormément de choses au destin de ces textes qui ont été traduits par des orientalistes et qui ont été ensuite recréés par beaucoup de nos poètes. Bon, on connaît les Orientales de Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo n'est jamais allé en Orient. Mais il a lu, bien sûr, toutes les traductions que publiaient les orientalistes à l'époque, de la même façon que Goethe, quand il écrit le Divan occident-oriental, lui-même n'est jamais allé en Orient. Mais pourtant, il a lu les traductions... qui ont été publiés à son époque. Et ça a été une telle influence que c'est vraiment un courant qu'on peut vraiment retracer dans toute la littérature européenne du 19e siècle. De gens qui ne connaissaient de l'Orient finalement que les bribes de textes, d'images, de tableaux, de musique qui pouvaient leur en parvenir.
Mmh. Il faut dire que c'est un roman très érudit, qui est fourmille de noms, de références... au milieu desquels on navigue avec beaucoup d'aisance et de bonheur d'ailleurs. Comme vos deux personnages sont des orientalistes érudits et qu'ils ont fréquenté des colloques, et qu'ils sont allés souvent ensemble dans des lieux comme ça de débats scientifiques, c'est aussi pour vous justement l'occasion d'introduire des débats à l'intérieur desquels vous rendez hommage à tout l'apport de l'Orient à l'Occident. Et ça, vous le faites vraiment clairement passer partout dans le texte.
Oui, bien sûr, c'est un peu une reconnaissance de dette, ou plutôt une archéologie. Comment est-ce qu'on On peut revoir aujourd'hui toutes ces couches d'influence que nous avons. Par exemple, bon, Palmyre est malheureusement dans l'actualité ces jours-ci, oui. Mais Palmyre a été redécouvert, en tout cas découvert en Europe, par des voyageurs anglais à la toute fin du XVIIIe siècle, qui en ont ramené des gravures. Et ces gravures, et notamment des fameuses colonnes qu'aujourd'hui on reconnaît comme palmyréennes, et ces gravures ont été tellement diffusées dans l'Europe que on s'en est beaucoup servi pour les imiter pour les ornements de façade à la fin de l'architecture classique et au début de l'architecture du 19e siècle. Donc il est très facile de se promener dans Paris ou dans Londres et de retrouver ces colonnes palmyréennes qui ont été copiées à partir des gravures qu'ont diffusées ces voyageurs à la fin du 18e siècle. Donc en fait, tout autour de nous montre ces relations et ces échanges interminables, évidemment, entre l'Est et l'Ouest. Et le roman rend un peu un hommage à cela. C'est une espèce d'archéologie de ces relations. Mmh.
Le Moyen-Orient s'ouvre aussi vers l'Iran. Et alors, il y a des figures récurrentes dans le roman que l'on retrouve, soit parmi ceux que l'on appelle donc les fous d'Orient, mais il y a aussi, par exemple, ce personnage formidable. Enfin, c'est un grand romancier qu'on connaît peut-être pas très bien ici. C'est le romancier iranien Sadek Hedayat. Et vous, d'ailleurs, il est cité très vite au début de Boussole, je crois. Vous le mentionnez tout de suite. Donc, c'est aussi l'occasion de rendre hommage. Voilà, je disais aussi que vos textes à tous les trois, c'est aussi des hommages à d'autres figure littéraire, et bon, donc Hedayat fait partie de ceux qui...
Des hommages, je...
Oui, enfin, hommage.
J'ai peut-être pas besoin d'hommage.
Je sais pas si c'est une façon, je sais pas si c'est un hommage, mais enfin bon.
Oui, mais c'est surtout une façon aussi de... Bon, d'abord, parce que c'est un personnage dans le roman, qu'on va voir, voilà, un peu la vie de cet homme, et notamment la fin de sa vie à Paris, et son suicide en 1951 rue Championnet à Paris. Et aussi disons que ce que ce livre un peu cherche à donner aussi à voir, à donner le goût de lire, de découvrir. Alors évidemment, on n'est pas du tout obligé, une fois refermé Boussole, de se dire, courir chez son libraire, commander La Chouette Aveugle, qui est sans doute le roman le plus célèbre d'Hedayat. Mais si sur tous les lecteurs de Boussole, il y en a un ou deux qui le font, je serais très content, moi, voilà, ouais. D'avoir... De la même façon pour la musique, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de musique, et notamment de... Et ça, c'est un des volets de l'orientalisme, peut-être qu'on connaît le moins. C'est comment est-ce que finalement, il y a eu aussi d'abord un courant orientalisant dans la musique européenne, et aussi des pièces qui sont vraiment inspirées de compositions orientales, de la même façon que je disais tout à l'heure, Goethe s'est pensé lui-même en amoureux oriental. Ben, par exemple, il y a un Lied, une chanson de Schubert, qui est le chant du prophète, le chant de Mahomet. Donc c'est assez surprenant aujourd'hui de voir comment est-ce que y a eu aussi tout un courant orientaliste qu'on a aujourd'hui. Un peu oublié, par exemple, des musiciens comme Félicien David, musicien français de la première moitié du 19e siècle, qui lui va au désert, en Égypte, et en revient avec une ode symphonique qu'il appelle Le désert, qui est absolument révolutionnaire, puisque c'est la première fois qu'on y entend, et ça choque beaucoup Berlioz, enfin ça l'intéresse énormément, quand il le décrit dans le journal des débats, on entend pour la première fois le muezzin à Paris, puisque Félicien David transcrit le chant du muezzin, donc pour ténor et orchestre symphonique, et donc on entend l'appel à la prière pour la première fois à Paris dans un théâtre sous la direction de Félicien David, Le désert. Mmh. Donc tout ça, c'est tout un monde qui est bon, aujourd'hui qui peut nous paraître bien loin, mais moi, je trouve ça assez passionnant de voir à quel point nos existences depuis très longtemps sont liées avec l'autre côté du Bosphore. Mmh.
Il y a plusieurs figures récurrentes, des gens qu'on retrouve au fil des pages de Boussole. Il y en a une, je disais tout à l'heure à Daniel de Roulet que j'étais convaincue qu'il la connaissait effectivement, bien sûr c'est le cas, c'est Anne-Marie Schwarzenbach. Elle fait partie de ces gens, ceux qu'on a appelés les fous d'Orient, au fond ce sont des gens pour lesquels la rencontre avec l'Orient a a tout fait basculer, quoi. Ils ont, voilà.
Mais quand vous parlez qu'on a appelé les fous d'Orient, qui est-ce qui appelle ça comme ça,
hein? C'est vous qui en parlez, des fous d'Orient?
Non.
Si, si.
Non, c'est
vraiment...
Non, alors c'est un malentendu, non. Je trouve cette expression un peu bizarre. Non, alors il y a des gens, disons que l'Orient c'est une fiction en fait. Parce qu'on, le mot Orient, de rêve, c'est un ensemble de récits, de d'imaginaires, de liés à beaucoup de choses, de depuis un Orient du désir. Qu'on trouve que, par exemple dans les Mille et une nuits, de clichés qu'on a fabriqués pendant très longtemps sur ce que pouvait être cet Orient auquel on avait plus ou moins accès. Évidemment, comme toutes les fictions, ça a provoqué aussi... il y a des fictions qui sont plus mystiques, par exemple, que d'autres. L'Orient, ça a été aussi... Enfin, c'est l'endroit où le soleil se lève, et ça a été aussi une grande source d'inspiration, plutôt du côté du désert, d'ailleurs, hein, pour des gens qui allaient chercher la vérité. Donc, beaucoup de pratiques religieuses ou mystiques différentes, hein, mais ça a été aussi comme ça une source, grande source de lumière. Et parmi tous ces gens qui se sont déplacés ou qui ont cherché des choses dans cet Orient, bah, certains sont tombés un peu dans un vide et ont rien trouvé d'autre qu'eux-mêmes, et parfois jusqu'à la folie. Voilà. Et il y en a certains, effectivement, qui sont devenus très très fous, déboussolés en tout cas, complètement, en ayant perdu l'Est. Mais c'est pas vraiment le cas d'Anne-Marie Schwarzenbach, puisqu'elle, c'est un peu... peut-être qu'on le découvre dans ses textes, hein, ce qu'elle décrit, c'est plutôt... Alors elle, c'est bon, elle est une génération qui... Elle meurt au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, très jeune, et elle ne sait pas très bien ce qu'elle va chercher en Orient. Elle y va parce qu'on lui propose ce voyage à un moment où elle est assez déboussolée. D'abord, elle pense faire une carrière d'archéologue. Elle se promène, elle... Et puis l'archéologie, voilà, ça la passionne pendant quelques temps, mais elle traîne quand même une énorme une mélancolie et un mal-être qui lui vient de la relation qu'elle avait avec voilà sa famille, avec ce milieu assez oppressant du bord du lac de Zurich, d'où elle a grandi, et ensuite aussi la montée petit à petit du fascisme d'abord et du nazisme ensuite, quelque chose qui la touche beaucoup. Et donc en fait, finalement le voyage, c'est une espèce de sorte de fuite vers l'Est, d'abandon de quelque chose, et d'essayer de découvrir un bonheur que finalement elle n'a jamais trouvé. Ouais. Et donc, notamment en Iran, son dernier long séjour en Iran, on voit bien dans sa correspondance, dans le récit qu'elle en fait, dans sa vie, que finalement elle cherche quelque chose qu'elle trouvera jamais. Mmh. Voilà. Mmh. À part peut-être dans les paysages de montagne, qui sont un peu un refuge pour elle, au-dessus de Téhéran. Et oui, c'est un personnage assez attachant pour ça, parce qu'on a toujours l'impression d'une espèce d'immense, toujours de déplacement, que les choses sont toujours remises en question, mais jamais résolues. C'est-à-dire qu'on avance, on est un peu poussé dans le dos, sans vraiment savoir vers où on va aller.
On a cité Daniel de Roulet, le voyage que fait Christian Garcin sur les traces de Sandrard. Là, on cite Anne-Marie Schwarzenbach. Il semblerait que la Suisse ait suscité des envies et des désirs de grands voyages. En tout cas, là, on a deux exemples. Il se trouve qu'on les a cités tous les deux. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui peuvent venir en tête. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans.
Vous voulez savoir pourquoi les Suisses voyagent?
Allez, disons ça comme ça.
Il y a un bon mot de Boris Vian, qui avait un beau-père suisse qui s'appelait Kubler et qui était un écrivain. Et Kubler avait l'habitude d'écrire le matin tôt au buffet de la gare de Zurich. À 5h30, il se levait et tout le monde savait que Kubler écrivait un roman qui est d'ailleurs paru en 3 volumes et qui n'est pas très intéressant, mais enfin, où il raconte des tas de choses. Et un jour, Vian est allé le... Il lui a dit que tu peux venir une fois voir commencer un buffet de la gare en Suisse le matin à 5h30, donc viens et allez. Il a regardé ce qui se passait et comme ça, et en rentrant, il a écrit à son beau-père, il a dit « J'ai compris, les Suisses vont à la gare, mais ne partent pas. » Et je crois que depuis, c'est complètement faux, que c'était la situation qu'il y avait dans les années 50. Et il faut se rendre compte que pour nous, de cette génération-là, il n'y a pas la mer. Et beaucoup de Suisses n'ont jamais vu la mer de cette génération-là. Donc maintenant que n'importe quel enfant voit la mer, même s'il est Suisse, voilà, on a commencé à voyager beaucoup plus qu'avant. Et on a des grands voyageurs parmi nous. Alors sur Anne-Marie Schwarzenbach, moi j'aime bien ce qu'il en a dit. Je voudrais juste dire que je trouve que, comme vous parlez de votre roman, c'est un peu dommage, parce que vous en parlez comme si c'était des textes littéraires, comme si c'était des textes d'érudits, alors que c'est un vrai roman. C'est ça qui est fantastique. Et moi, ce que j'ai beaucoup admiré dans ce roman, c'est de voir qu'on arrivait à raconter, faire passer des idées de l'érudition, presque une thèse par rapport à l'orientalisme, sans jamais ennuyer le lecteur qui est suivi dans cette histoire d'amour. Donc, s'il n'y avait pas l'histoire d'amour, moi, je ne lirais pas votre livre.
Moi, je ne l'aurais pas écrit. Hein, s'il n'y avait pas l'histoire d'amour.
Ça marche ensemble, hein, je crois. Ouais. Les deux sont...
Alors, sur Anne-Marie Schwarzenbach, j'ai une anecdote, parce que ma mère était... ma mère, qui a 97 ans, était à son mariage. Et elle avait 8 ans à l'époque. Donc, c'était les petites filles qui tenaient la traîne. Et la seule chose dont elle me parle toujours, c'est que ses parents étaient pro-nazis. Donc la famille, la mère Schwarzenbach était une femme horrible, et que c'est ses parents qui ont brûlé totalement sa correspondance, et qui surtout ont inventé l'histoire qu'elle serait morte d'un accident de vélo en Agadine, alors que comme par hasard, elle avait une pierre, elle serait tombée sur une pierre qui l'a tapée juste ici au milieu du front, l'endroit où une balle de pistolet était entrée, et ensuite elle a fini comme un légume à Prangin, près d'ici, parce que, voilà, on l'a considérée comme folle depuis le début, et le fait d'avoir fait une tentative de suicide à moitié réussie a conforté ça. Et c'est que dans les années 80 que la nouvelle génération de sa famille a commencé à raconter la vraie histoire de cette femme. Sans cela, on entendrait... Si la famille avait pu continuer de mettre le couvercle là-dessus, on n'en parlerait plus. Mmh. Puis alors, sur Sandra et le Transsibérien, puisque vous m'avez demandé... il se trouve que j'ai aussi fait le transsibérien, mais à l'époque où Mao Tse-tung était au pouvoir. Et je me rappelle seulement cette anecdote, puisqu'on a parlé du paysage. Moi, j'étais dans un train où on n'a jamais regardé par la fenêtre, parce qu'on faisait un voyage politique. Et on allait en Chine, et on allait regarder ce qui se passait en Chine. Et parmi nous, il y avait un ouvrier peintre qui était fier de s'appeler Joseph, comme Staline. Et donc on est en 1974. Et ce Joseph avait fait une collecte auprès de ses amis peintres, enfin peintres en bâtiment, pour qu'on lui paye le voyage de Chine. Et donc pour lui, il allait au paradis. Et pendant tout le voyage, il nous a cassé les pieds pour nous raconter qu'on allait entrer au paradis. Et quand on a traversé, il a fondu en larmes en trouvant le paradis. Voilà. Et donc, il m'a beaucoup embêté parce que je n'ai pas gardé de souvenirs. J'ai tenu un journal en allemand parce que je ne voulais pas qu'il lise ce que j'écrivais. Et j'ai fait ce voyage sans... Ça arrive qu'on voyage sans regarder par la fenêtre. Il y a des gens qui vont jusqu'en Australie et quand on écoute ce qu'ils disent, ils parlent du prix des chaussettes chez Manor. Quoi. Donc, ils ne sont pas intéressés vraiment par ce qui s'y passe.
On n'est pas dans la contemplation, là, ce dont parle Christian Garcin. Parce que vous dites que le transsibérien, c'est une expérience de lenteur et de contemplation, justement.
Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Une expérience du temps.
Du temps, voilà.
Qui s'étire, ouais. Ces journées. C'est paradoxal parce que quand on prend le train pour... Moi, j'habite à Marseille. Si je dois faire des rencontres littéraires à Nantes ou à Bordeaux, je me dis, c'est pas possible, c'est trop loin en train, j'y vais en avion. Et dans le transsibérien, je n'ai jamais assez. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai pris, je me souviens, je m'étais arrêté à Irkoutsk pour passer quelques jours au bord du lac Baïkal. Et j'étais avec un ami et on était descendu à Irkoutsk le samedi matin après être parti le mardi de Pékin, de Moscou. Et donc on avait passé 80 heures environ et on trouvait que c'était trop court, quoi. Enfin, on aurait bien aimé continuer là. Descendre, on était très contents de descendre à Irkoutsk et d'aller voir le Baïkal que nous ne connaissions ni l'un ni l'autre. Mais on se disait, on serait bien resté dans ce rythme. Voilà. Parce qu'on entre... Ça peut être angoissant quand on l'imagine avant d'y être. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un espace clos et finalement assez étroit, un compartiment de train, avec deux ou quatre couchettes, selon qu'on voyage en première ou en deuxième. et dont on ne sort pas ou quasiment pas. On fait quelques pas sur les quais de gare lorsqu'il y a des haltes entre deux et enfin deux, on évite de sortir, mais 20 minutes mettons selon où on s'arrête. Donc c'est un espace qui peut être étouffant. Il y a les fenêtres des compartiments ne s'ouvrent pas, il y a que celle du couloir qui passe devant qui s'ouvre. Mais se crée aussi par le fait de cette monotonie des paysages, je pense, se crée une espèce d'école de la contemplation, de la lenteur, de l'espace réduit que l'on habille à sa guise. Et puis on a un emploi du temps qui est libre. C'est-à-dire qu'on n'a aucune contrainte de quoi que ce soit. On n'a qu'à regarder par la fenêtre, lire, dormir, boire un thé, aller au bout du couloir, remplir la tasse de thé au samovar. Voilà. Et cette espèce de réinvestissement, de réappropriation du temps, ça c'est un vrai luxe, quoi, vraiment. Et on s'en rend compte qu'au bout de quelques... Le temps, ensuite, on a envie vraiment de l'habiller à sa guise le plus longtemps possible. Voilà. Mmh. Lorsqu'on arrive, vous savez, tout le long du Transsibérien, les gares affichent l'heure de Moscou, et pas l'heure du lieu traversé. Hein. Donc, lorsqu'on est à tel endroit et qu'on vous dit... et que vous voyez sur le tableau, il y a des petits tableaux dans le couloir, que vous allez arriver 4 heures plus tard à Irkoutsk, par exemple... La première, et je suis pas le seul, dans ce cas-là, la première réaction, c'est de dire 4 heures, à peine, plus que 4 heures. Et heureusement, c'est l'heure de Moscou, donc c'est 9 heures, c'est pas 4 heures. On a 9 heures devant nous, et là, on se dit, ah, on respire, on est enfin du temps. Là, cette réappropriation du temps, cette appropriation de l'espace, parce qu'on traverse quand même un corps, le corps de la Russie, qui traverse 9 fuseaux horaires, enfin 8, je crois, maintenant, on traverse un quart de la planète, hein, à petite allure, à 70 km/h environ. Donc on a le temps de se réapproprier la géographie. Le sentiment de la géographie, on le perd souvent dans les transports rapides, les TGV, les avions, n'en parlons pas. Là, vraiment, on investit la géographie de manière assez, assez précise, quoi. On mesure ce que c'est que l'immensité de la Russie. Voilà. Et on réinvestit aussi le temps, et ça c'est extrêmement précieux.
Alors la question du temps est très présente, Daniel de Roulet, dans vos chroniques qui vous avez rassemblées donc, sous ce titre « Tous les lointains sont bleus », sont des chroniques tenues sur une trentaine d'années environ.
40.
Et elles montrent, ça c'est intéressant, elles montrent l'évolution dans votre façon à vous de voyager personnellement, mais de façon plus large, dans la façon dont on voyage.
Il se trouve que la première chronique, elle parle d'une situation qui aujourd'hui est devenue douloureuse, qu'il était déjà. Je raconte un voyage en 1975 que j'ai fait alors que j'étais employé, je gagnais ma vie à Istanbul, je travaillais comme architecte à la municipalité d'Istanbul, et j'ai une amie qui est venue me voir et on a décidé de voir le pays en allant jusqu'à la frontière avec la Syrie, et on était pendant une nuit très gênés par des cris terribles qu'on entendait à côté de l'endroit où on dormait. Et le matin, on s'est aperçu que c'était un poste de police et on a vu sortir quelqu'un sur une civière et on s'est rendu compte que c'était un endroit où on torturait les gens. Et quand je pense à cette scène, je pense qu'il y a toujours encore des Kurdes qui essaient de traverser la Turquie, qui arrivent sur la rive de la Méditerranée et qui meurent sur les plages. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cette région est dans une situation perpétuelle de guerre, et en même temps, il n'y a pas de... On ne le voit plus de la même manière, parce que, justement, l'information, la manière... On va toujours dans des endroits qu'on a l'impression d'avoir déjà vus. Et puis, il se trouve que par rapport au temps, il me semble que c'est difficile... même d'évoquer certaines fois des paysages qui ont été très calmes, très extraordinaires et comme ça, et de les donner à lire aux gens d'aujourd'hui. Alors par exemple, on a parlé de Palmyre tout à l'heure, j'avais dans mes textes un texte sur ma traversée depuis Palmyre jusqu'à Damas dans une voiture où le type qui nous conduisait n'avait pas la maîtrise de conduire sur le sable, et moi je savais un peu comment on conduisait sur le sable, et au fur et à mesure qu'on avançait dans la nuit, il me promettait des chameaux, une chamelle nouvelle si t'arrives au but, etc. C'est une histoire à moitié drôle, j'ose pas la publier. Parce que je trouve qu'il y a une indécence aujourd'hui à raconter des histoires trop gaies, des paysages trop, comment dire, patrimoine de l'humanité, quand on voit ce qui s'y passe. Et ça, c'est partout comme ça. Quoi. Chaque fois qu'on est dans une situation, le transsibérien, je suis retourné dans cette région pour visiter la Colima. Quand on parle de la Colima, on peut pas en parler dans n'importe quel terme, tout en devant reconnaître que les paysages sont extraordinaires, qu'il y a une flore alpine, enfin presque alpine, qui nous éblouit. Et puis, en même temps, voilà, il s'y est passé des telles choses qu'on est obligé de les raconter d'une autre manière. Et moi, j'ai beaucoup de peine à trier mes souvenirs, parce qu'une partie, ça s'est passé comme homme d'affaires, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on m'envoyait à un endroit pour un congrès ou un autre, alors je prenais des notes. Pour moi, j'ai jamais pensé être écrivain à ce moment-là. Et puis ensuite, quand je les ai retrouvés, 40 ans plus tard, j'ai pu en publier que la moitié, parce qu'il y avait une partie qui était tellement... Bon, il y en a qui était très mal écrit, qui continue d'être très mal écrit, mais en même temps, il y a une partie que je la trouve indécente, quoi.
Vous évoquez aussi, et je crois que c'est votre cas également, Christian Garcin, le fait que c'est la notion même de voyage qui a changé pendant cette période de temps, que vous couvrez avec vos chroniques, dans la mesure où aujourd'hui, on peut déjà avoir le sentiment d'avoir tout vu virtuellement, et que peut-être d'une certaine manière, on a presque plus besoin d'y aller, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous évoquez ça.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, un enfant à qui on voudrait faire une surprise en lui montrant la Tour Eiffel, il vous rit au nez parce qu'il l'a déjà vue 50 fois en image. Et que même quand on va à l'autre bout du monde, je reviens de l'Alaska, les paysages de l'Alaska, je les ai vus sur Google avant d'y aller. Et même si je m'étais forcé à ne pas les voir avant, j'aurais été obligé de considérer qu'ils existent de manière très détaillée. Alors, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qui reste à raconter des paysages qu'on découvre et des situations qu'on découvre? Moi, je pense que c'est une nouvelle curiosité quand le corps physique est à l'endroit même de la chose. Tant que le corps n'y est pas, et ça nous dit beaucoup de choses sur notre rapport au monde, quoi. Tant que le corps n'y est pas, il n'y a rien à raconter. Il y a à copier Wikipédia et Google Earth.
Oui, Christian Garcin.
Oui, non, j'approuve. Je pensais à l'enfant devant la Tour Eiffel, mais si en même temps, si tu le mènes devant la Tour Eiffel, il va être subjugué parce que ça va être, tu vois, oui. Quand même, quoi. Voilà, donc parce que il s'y trouvera finalement, quoi.
Il va prendre la mesure du.
Oui, bien sûr.
Alors, vous dites que quand vous voyagez, vous avez besoin de vous raconter une histoire. Donc, vous vous racontez l'histoire des lieux, l'histoire des gens. Voilà, il suffit pas de se déplacer, quoi. Il faut se raconter une histoire.
Mais je crois que moi, j'ai de la course à pied et puis je me racontais une histoire pour arriver au bout. Donc on se raconte toujours, on se met en scène d'une certaine manière. Alors on essaye de le faire sans être trop égocentrique, on essaye de le faire sans se mettre au centre du monde. Mais on admet que ce qu'on est en train de faire est unique et qu'il faut le replacer dans le contexte. Et moi j'aime bien le replacer dans les contextes de l'histoire. Sans vouloir entrer dans l'érudition, mais savoir ce qui s'est passé à cet endroit-là est très important sans se mettre dans une situation patrimoniale, en allant regarder que les châteaux de la Loire et pas regarder quel genre de poissons sont en train de crever dans la Loire.
Oui, c'est autant un voyage effectivement dans l'histoire que dans l'espace, parce qu'on part bien sûr en Afrique, en Amérique latine, en Inde, mais il y a aussi des chapitres consacrés à Auschwitz, à Buchenwald, à des guerres plus récentes. Les guerres sont très présentes dans ces chroniques.
Je trouve qu'il y a dans la situation d'aujourd'hui la mondialisation. Tout le monde a compris ce que c'est. Et puis il y a un bon côté. La mondialisation, si j'ose dire, que moi j'appelle la mondialité. C'est un mot qu'ont inventé les anarchistes du 19e siècle, les géographes comme Reclus. Et cette mondialité qui nous permet aujourd'hui de voir le monde comme un ensemble, nous oblige aussi à aller voir des endroits qui étaient des taches aveugles de notre histoire. Quand on est en Amérique du Sud, on se rend compte qu'au nom de la civilisation, ont été commis des horreurs. La civilisation très chrétienne a étouffé des peuples entiers qui n'existent plus. Et oui, je vais raconter ça parce que c'est un truc dont j'arrive pas à sortir. Alors en deux mots, c'est comme ça. J'étais au mois de janvier dernier sur un bateau dans le sud du Chili, et sur ce bateau, il n'y avait pas Internet, pas possibilité. Et quand je suis arrivé à Chiloé, j'ai reçu 50 mails dans mon courrier, tout me racontant qu'il se passait des choses horribles en France, etc. Et j'étais justement, c'est là que mon Wi-Fi s'est remis en marche, dans un musée dans lequel on racontait que les derniers Indiens, indigènes de la région, avaient été massacrés dans les années 1930. Et le rapport entre ces deux choses, ce massacre au nom de la civilisation et ce drame parisien, ça me paraissait tellement, pas sur la même échelle et tellement exagéré de la part de mes amis que je n'ai pas réussi à leur répondre à ce moment-là. Je me disais, mais ils sont complètement fous, ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qui se passe dans le monde, de venir me raconter que, bon, bien sûr, j'avais tort, mais je n'avais pas tort vu de mon point de vue, vu dans la situation d'éloignement dans laquelle on peut se trouver par rapport au drame du monde. Et même si on a l'impression que, par exemple, le cliché de l'enfant sur le sable qui fait le tour du monde, ça va réveiller les consciences de tout le monde, je ne crois pas que c'est comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas croire que l'image en soi est scandaleuse. C'est la situation qui est scandaleuse. Et cette situation, c'est cette situation qui est racontée par la mondialisation et que moi, j'essaye de retourner par la mondialité.
Je disais tout à l'heure que ce qui relie vos trois textes, à part la présence de l'ailleurs et des lointains, c'est aussi le fait qu'il y a des références à d'autres, alors souvent écrivains, mais chez vous, Mathias Sénard, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des musiciens, il y a d'autres qui vous ont précédé dans le voyage, qui ont fait le voyage avant vous, d'une certaine manière, sur les mêmes lieux. Et je voulais savoir quel était le rôle, dans votre façon à vous de voyager, de cette présence-là, de ceux qui vous ont précédé. Comment leur mémoire vous accompagne dans le voyage, ou quel rôle ça joue?
C'est double en fait, c'est-à-dire que c'est avant de voyager. Moi j'ai commencé à voyager dans ma chambre quand j'avais 14 ans ou 14-15 ans. Je suis resté pendant... j'avais 14 ans, pendant 6 mois enfermé dans ma chambre. Et c'est là que j'ai découvert Blaise Cendrars, ce qui m'en a un peu sorti. En fait, si j'ai réussi à sortir de cette chambre, c'est parce que j'ai lu les feuilles de route, la prose du Transsibérien, le Panama, et après les souvenirs bourlingués... Et au bout de presque une année scolaire, je me suis dit, ça y est, il est temps d'aller voir le monde, quoi. Donc, d'abord, les textes ou les noms de lieux vous poussent à partir. Peut-être parce que j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelait Samarcande, et j'ai toujours eu dans l'esprit ce nom et cet endroit. Vous savez, dans Proust, il y a ces deux chapitres absolument magnifiques, le nom de pays, le nom, et ensuite le nom de pays, le pays. Et finalement, l'un précède l'autre, c'est-à-dire qu'on commence par le nom, ou la littérature, ou les textes, ou l'auteur, et ensuite vient le pays. Et en fait, très souvent, en voyageant, alors moi, contrairement à vous deux, je ne suis pas du tout un grand voyageur, je suis un voyageur très lent, j'ai eu la chance de vivre pendant longtemps... en Syrie, au Liban, un peu en Iran, mais je connais pas toutes ces contrées lointaines comme mes camarades. Mais c'est vrai que j'aime en voyage, découvrir aussi des gens ou des esprits ou des gens qui sont passés par là ou ce qu'on pourrait appeler un esprit du lieu. Et effectivement, quand on arrive quelque part, alors là, cette fois-ci, pas quand on est dans le nom de pays, le nom, mais dans le nom de pays, le pays. Il y a aussi, dans un deuxième temps, cette envie de découvrir des textes, des histoires, des récits qui viennent peupler aussi cet endroit, quoi. Voilà. Qui ne reste pas uniquement un paysage vide, mais qui, de nouveau, ce paysage se repeuple des écrivains, bien sûr, mais aussi tout simplement des peintres, des musiciens, des photographes, des gens même, des conversations, des langues. Le plaisir du voyage, pour moi, c'est aussi le plaisir de la langue, d'apprendre des mots. Ouais, je me souviens que dans le Transsibérien, parce que on m'a au moins aussi commandé une fiction radiophonique, dans le Transsibérien, enregistrée et écrite sur place. Et ce qui était extraordinaire, c'était d'apprendre des mots russes. À chaque fois, on apprenait un nouveau mot russe. Et je me rappelle qu'à côté du fameux samovar, qui est au bout du couloir, il y avait un schéma technique très complexe qui décrivait le fonctionnement de tout ce samovar, comme si on allait peut-être un jour être amené à le réparer soi-même, quoi. mais un schéma électrique avec voilà le schéma de espèce de triangle entouré d'un cercle, de la résistance, on avait tout ça. Et je m'amusais à déchiffrer, quand je remplissais, en attendant que la tasse se remplisse, les mots cyrilliques qui correspondaient aux parties du samovar. Ça aussi, ça fait partie, cette stimulation, en fait, de l'esprit qui fait partie du voyage.
Et puis oui, être sur les traces de quelqu'un, de Sambrar, ou du moins du voyage imaginé de Sambrar, où là, j'étais au mois de juin, j'étais au Tibet, sur les traces, alors là, pour un livre à venir, sur les traces d'Alexandra David-Nel, qui n'était pas suisse, mais belge, donc, et qui était une des orientalistes dont Mathias parle un peu dans son livre, qui a eu une vie absolument incroyable. Elle a commencé très tôt à tourner le dos au catholicisme bigot de la fin du XIXe siècle, qui était misogyne, qui était rigide, qui était austère, etc. Et s'est intéressé aux orientalismes en général, s'est converti au bouddhisme et a passé ensuite sa vie, est allé en Inde très tôt et ensuite a passé sa vie jusqu'à 78 ans quand même, où elle continue à fuir à dos de mule sous les bombardements japonais en Chine, passé sa vie entière en Extrême-Orient et puis est venue mourir dans les Alpes françaises à l'âge de 101 ans. Et j'ai fait un voyage, je suis parti dans le Yunnan et dans le Tibet sur ces traces, plus ou moins. Et le fait de replacer, effectivement, comme on le disait là à l'instant, de s'inscrire dans les traces, même lointaines, de quelqu'un, où ça ouvre une dimension, je sais pas comment dire, verticale, quoi, du lieu. C'est-à-dire qu'une dimension temporelle du lieu. On traverse un endroit, on lit ce qu'on a dit il y a un siècle ou presque, quelqu'un d'autre ou plus, selon. Voilà, on crée une passerelle entre les deux, et puis ça ouvre des perspectives, et ça ouvre un puits du temps que l'on comble avec les mots et avec sa propre expérience de l'instant. Ou comme si on se trouve à Pékin et qu'on pense à Ségalène dont vous parliez, qui habitait au nord de la cité interdite, une petite maison qui n'existe plus, et on voit ce qu'il disait à l'époque. Enfin, ces choses-là, cette espèce de passerelle perpétuelle entre le passé et le présent, entre ceux qui ont arpenté des lieux et dans les traces desquels nous les arpentons nous-mêmes, ça ouvre effectivement de grandes perspectives pour la d'écriture, quoi, en tout cas, d'imaginaire et d'écriture.
Daniel de Roulet.
Oui, j'avais un nom dans la tête qui est Jura, tout simplement, parce que vous pouvez constater que j'ai l'accent jurassien, que j'en suis fier, puis que je voulais savoir d'où venait ce mot. Et puis, il se trouve qu'il y a un whisky qui s'appelle Jura, Isle of Jura.
L'île de Jura, ouais.
Alors voilà, je suis allé à l'occasion à l'île de Jura pour voir vraiment qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Puis en fait, ça, les deux mots n'ont pas du tout la même origine. Jura, du côté écossais, ça veut dire l'île des cerfs, alors que du côté nordique, ça veut dire la forêt. Mais enfin, j'ai vu là, puis je suis tombé sur George Orwell, qui était sur cette île. Et voilà, c'est vrai que c'est une émotion particulière de découvrir un endroit qui a été nommé par d'autres. Mais sur le nom même, alors cette fois le nom, mais sans l'endroit. Pour moi, j'ai une expérience que je pense importante, qui est le moment où j'ai appris à lire et où les autres se sont rendus compte que j'avais plus besoin d'eux pour lire le journal. Et c'était, je crois, en 1954, ça doit être, ou je ne sais plus l'époque exactement, c'était un journal, je me souviens très bien de l'endroit, j'étais dans un funiculaire, mon père sort le journal parce qu'il s'ennuyait, il lit le journal, et je vois sur la première page l'armée française défaite à Dien Bien Phu. Et c'était écrit très très grand, Dien Bien Phu. Et je dis à mon père, qu'est-ce qui se passe à Dien Bien Phu? Et mon père me dit, comment tu sais ça? Mais de quoi, Dien Bien Phu? Et là, il a compris que j'étais autonome et que j'avais plus besoin de lui pour qu'il me lise ce qui se passe. Ceci dit, quand je suis arrivé à Hanoï, on m'a dit, tu veux aller voir Dien Bien Phu? J'ai dit, non, j'ai un souvenir et je veux pas je veux garder ça comme un nom et pas comme un endroit.
Ah oui, c'est une belle. On ouvre la conversation, peut-être. Voulez-vous poser des questions? Et si c'est le cas, vos questions sont les bienvenues. Oui, monsieur? Je crois qu'on va... Voilà, il y a un micro.
Oui, merci déjà pour toutes les idées que vous avez avancées. Vous avez déjà répondu à pas mal des questions que j'avais dans la tête, mais si aujourd'hui vous deviez défendre le voyage et nous dire en deux mots ce que ça vous apporte et les espoirs que vous avez de destination encore future et qu'est-ce que vous en attendriez?
Je peux dire en deux mots juste une expérience que je viens de terminer. Je suis J'étais absent pendant 8 mois pour aller de la Patagonie à l'Alaska par la côte ouest, remonter les deux continents, l'Amérique du Sud d'abord, l'Amérique du Nord. Et moi, alors, je ne savais pas exactement ce que ça allait... Enfin, j'avais 2-3 idées, pourquoi j'y allais, les choses que je voulais voir, le rapport de couple qui s'établit dans une histoire comme ça, quand vous êtes depuis 35 ans avec la même femme et que tout à coup, vous ne pouvez plus vous séparer d'elle pendant même 5 minutes parce que vous voyagez ensemble. Mais enfin, la chose qui, pour moi, est apparue pendant ce genre de choses, c'est que chaque fois que j'étais à un endroit important, je me rendais compte que c'était le centre du monde. C'est-à-dire... Quand vous êtes tout au sud de la carte géographique que vous avez dans la tête, qui est le détroit de Magellan et la Terre de Feu, ou tout au nord, là où finit l'Alaska, etc., c'est des endroits que vous avez considérés comme étant les bords du monde, the last frontier. Ben, pas du tout. Une fois qu'on y est, c'est là le centre, c'est depuis là qu'on voit le monde. Et moi, je crois que le voyage, si on veut le défendre, c'est que c'est chaque fois un endroit depuis où il faut voir le reste de la mondialité. C'est-à-dire que c'est toujours un nouveau centre du monde dans lequel on a la chance de pouvoir s'être déplacé.
C'est très beau. C'est très beau. Moi, comme je disais, je ne suis pas un grand voyageur, mais j'ai des rêves, oui, encore, des destinations qui me font un peu rêver, et notamment, on en parlait à midi, la Patagonie et le détroit de Magellan, et puis les 40e rugissant, les 50e hurlant, et tout ça. J'aimerais bien retrouver une façon de revivre un peu ce que pouvait cette aventure très certainement extraordinairement effrayante qui était à l'époque, qu'il est encore, je pense, pour la navigation, passer de l'Atlantique au Pacifique par le Sud. Voilà. Mais comme je ne suis pas du tout un excellent marin, loin de là, ce sera sans doute un rêve que je ne réaliserai jamais. Mais oui, ça, ce sont des choses qui me font rêver. Et sans doute, c'est un rêve d'enfance aussi. C'est lié au récit de Marine que je lisais quand j'étais enfant. Finalement, les destinations à venir, elles ont toujours, comme je disais tout à l'heure, d'abord commence par une part de rêve. Et pour moi, c'est aussi des projets qui sont liés à l'écriture. C'est-à-dire que je pense que si on m'avait pas proposé d'écrire quelque chose, j'aurais jamais pris le Transsibérien. Parce que, effectivement, il en parle très très bien, Christian, mais dans son côté moine, là, dans sa cellule. Mais c'est quand même aussi extraordinairement ennuyeux et tout dépend de vos compagnons de voyage.
Monotone. Pas ennuyeux.
Non, mais ça peut le devenir. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, les boulots, on n'en peut plus, quoi.
Tu es un hyperactif, toi. Oui. Toi, tu es un hyperactif, c'est pour ça. Tu n'es pas un contemplatif.
Alors que lui est un contemplatif.
Boulot, mais vous imaginez pas des centaines de kilomètres de boulot les uns après les autres. Une clairière et boulot.
Oui, les mélèzes parfois.
Les mélèzes.
Et puis après des boulots.
Et puis après des boulots. Et alors, on voit certains, ils sont brûlés. Ouais. Hein, ça fait un petit. Ah, tiens, là, il y a eu un incendie, puis ça continue.
Mais... Mais dans ce cas-là, tu plonges dans Nom de Pays le Nom, tu vois, tu lis pendant une heure ou deux, après voilà. Tu regardes, tu as à nouveau des boulots. Bon, voilà,
et on a l'impression, en fait, au bout d'un moment, de plus rien voir, d'avoir les yeux complètement poncés au paysage, quoi. Espèce de disparition du regard. Parce que oui, le Transsibérien, ça n'avance qu'à une moyenne de 90
km. 70, ouais, je crois.
70 km à l'heure.
Ça, c'est lent. C'est ça qui est bien.
Donc, alors, oui, pour 10 000 km, vous en avez pour un moment.
C'est ça qui est bien, c'est la lenteur, justement. Alors, les fleuves, là, j'ai descendu la Léna et l'Yenisseï en bateau. Là, ça va en moyenne à 20 km/h, tu vois. Puis là, c'est le temps, là aussi. C'est bien.
Mais fait, moi, c'est l'incendie.
Ah, oui, tout était. L'Yenisseï, ouais, c'est au moment de l'incendie, ouais, on n'y voyait rien. Mais, non, ce qui est important ou essentiel, c'est la construction mentale, évidemment. C'est l'expérience du corps dans la géographie, mais c'est aussi la construction mentale. Par exemple, la notion de confins dont Daniel parlait là, c'est-à-dire moi je me suis rendu compte que finalement ce qui m'attirait souvent c'était le confin, c'est-à-dire c'est d'avoir l'illusion, parce qu'évidemment la Terre est ronde donc on est partout au centre, mais d'avoir l'illusion à l'autre bout de quelque chose. Donc on va à Vladivostok, on part à pied d'ici, on marche vers l'est et puis on arrive au bout, voilà, on peut plus avancer, il y a la mer. Ou d'aller en Patagonie. Voilà, par exemple, on est au bout. Quand j'étais au Japon, je voulais absolument aller au cap Nosapumisaki, qui est l'extrême est de l'extrême-orient, qui n'a aucun intérêt. Mais quand j'étais, je me disais, je suis à l'est du monde. Ouais. C'est qu'il faut, parce que je sais bien qu'il y a un peu plus... Alors, déjà, il faut avoir une conception européocentrée, déjà, pour commencer. Et puis même, il y a plus à l'Est, puisqu'il y a des habitants au Kamchatka, et voilà. Et donc... Mais j'étais à l'Est de l'extrême-orient, donc du Japon, du soleil levant, j'étais à l'Est du monde. Voilà. Et cette notion est importante. Et cette façon de lier le... En ce qui me concerne, en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de balance entre le confin et le confinement. Le moine dont il parlait. C'est-à-dire que, et ça, j'ai une explication pour ça, c'est l'explication psychogénéalogique. J'ai rien contre la psychogénéalogie, la preuve, c'est que je m'en fais le porte-parole ici. Du côté de ma mère, ce sont des navigateurs, du côté de mon père, ce sont des bergers. C'est-à-dire, dans les deux cas, ce sont des gens qui sont confrontés à l'immensité, de la montagne ou de l'océan, mais qui sont, quand ils s'en retirent, dans des cabines de bateaux ou des cabanes de bergers. Donc ils sont à la fois dans le confinement et dans l'immensité. Et je crois qu'en vérité, c'est ça qui m'intéresse énormément. Dans le transsibérien, c'est ça, le confinement, dans un espace réduit, mais on traverse une immensité. Ou dans une cabine de bateau, quand on descend un fleuve russe, c'est un peu la même chose. Je crois que ça vient de là. Enfin, ça n'a aucun intérêt, mis à part que voilà, je me raconte des histoires. Hein, c'est tout. Et puis ça permet un jeu de mots, confin, confinement.
Bon, oui, c'est, ça aussi, c'est bien. Il y avait une autre question. Je crois que c'était d'abord, madame, et puis après, ça va.
Vous l'avez abordé à un moment donné, mais très brièvement. Le rendez-vous avec vous-même, vous en avez parlé, monsieur Garcin, et puis monsieur Deroulet aussi. Est-ce qu'on part... comment partez-vous et pourquoi partez-vous, si ce n'est pour vous rencontrer ou au contraire pour vous évader de vous-même? Et puis, si c'est pour vous évader de vous-même, quand vous arrivez, vous rencontrez quand même vous-même. Alors, ça peut être un petit peu frustrant. Voilà, c'est un peu tourné, si vous comprenez ma question.
Non, alors s'évader de soi-même, je crois que c'est... Ouais. Je ne sais pas répondre. Je ne peux pas apporter une réponse définitive à ça. Moi, je ne peux pas dire non, absolument pas. En vérité, j'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas très bien. En ce qui me concerne, ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'avoir devant moi des projets de déplacement géographique, des projets de déplacement du corps dans l'espace. Voilà. La seule chose que je peux dire avec certitude, c'est ça. Si je n'ai pas, à brève échéance, c'est-à-dire quelques mois, le projet de partir ailleurs et de voir, respirer, sentir, entendre des paysages, des odeurs, des langues, des sons que je ne suis pas accoutumé à voir, partager, entendre, je vis, je survis, bien sûr, mais enfin, I would prefer not to, comme disait Melville, enfin Bartleby. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un projet de déplacement. Alors est-ce qu'il s'agit de se fuir ou de se trouver? Il y a Montaigne qui disait « Je sais bien ce que je fuis, je ne sais pas ce que je cherche. » Moi, je ne sais même pas ce que je fuis, alors, pour le coup. Je pense que je vais faire une réponse de Normand, et il y a un peu des deux, sans doute, quoi. Peut-être. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais je n'ai pas une réponse très précise là-dessus. Moi,
je pense que c'est vrai que chaque fois, ça se joue d'une manière différente. Je pense à un moment... l'année dernière, je voyageais, j'étais tout content d'aller voir les cabines téléphériques que les Suisses ont construites pour survoler La Paz. Et il y a maintenant, depuis Noël, quatre grandes lignes extraordinaires où on survole la ville. Enfin, c'est fait pour les gens qui vont au travail d'un endroit à l'autre. Et je trouvais cette invention fantastique parce qu'on voit toutes les couches sociales, on les survole. On peut regarder dans la cuisine de quelqu'un qui est en train de se faire servir par une bonne, comme on peut voir les gens des taudis, et la cabine, elle passe comme ça en-dessus de tout. Donc, je suis tout content de faire ma petite théorie sur, comme ça, quand on survole le monde, on peut mieux le comprendre, etc. Et puis, il y a une panne qui a duré quand même assez longtemps, et on était dans une cabine où les gens... Alors, j'étais avec des indigènes, ce qu'on appellerait, qui avaient des grands chapeaux et tout ça, puis personne ne se parlait. Moi, encore moins avec les autres, parce que je n'étais pas sûr qu'ils comprennent mon espagnol. Et là, effectivement, il y a tout à coup un moment dans lequel on dit « Mais qu'est-ce que je viens foutre par ici, quoi ? Qui me fait faire ça, quoi ?» avec ça. Bon, je vais vous dire juste pour la petite histoire que les cabines sont reparties, mais que le soir même, il y a un énorme arbre de 40 mètres qui est tombé sur les câbles, et là, c'était beaucoup plus grave. Et je me suis dit, t'as échappé quand même à quelque chose.
Il y avait une autre question, je crois. Oui, voilà, madame, pardonnez-moi, je ne savais plus où c'était.
Je vais essayer de m'exprimer. Que pensez-vous de la jeune génération ? Je ne suis pas de la jeune génération, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais chaque fois que je parle à des gens qui ont 20 ans, enfin mon entourage, oui, ben on voit ça sur Internet, on voit ça, il n'y a qu'à faire, il n'y a pas qu'à... Que pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui, ceux de 15, 20 ans, qui voyagent tous les jours, je fais si, je fais vite New York, je fais vite... Est-ce qu'ils auront la même impression que nous quand ils voyageront, quand ils auront notre âge? Parce qu'il semble qu'ils ont, ils ont tout découvert numériquement, et puis cette possibilité, ben, les petits... Moi, j'ai des tout petits neveux, arrière-petits-neveux, qui ont 2 ans et qui ont déjà été... Bon, voilà. Et je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Qu'est-ce que... Comment vous pensez qu'ils pourront découvrir?
Le plus jeune d'entre nous devrait répondre.
Ah oui, mais je suis loin d'avoir quand même malheureusement 20 ans. Mais moi, je pense qu'au contraire, l'aspect numérique de la découverte, c'est... Je pense, au contraire, une envie d'aller voir aussi. C'est que c'est, on est là dans le nom du pays, le nom, c'est-à-dire qu'on voit. Et c'est vrai que ça fait rêver. Moi, ça m'arrive beaucoup de voyager sur Internet avec ce programme magnifique qui s'appelle Google Earth, par exemple, de me dire tiens, mais je vais aller faire un peu d'avion au-dessus du désert du Karakoum, par exemple. L'endroit où je suis jamais allé, mais qui m'a toujours fait rêver. Et donc, je mets le truc en mode piloter l'avion, là, et je vais regarder des paysages, je descends dans des canyons, je vois à quoi ressemble le désert du Karakoum. Bon. Mais ça ne préjuge pas du tout de la possibilité ou de l'envie que je puisse avoir d'y aller en vrai.
Bien sûr.
Et je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est deux choses complètement différentes. Il y a le monde tel qu'il nous apparaît et tel qu'il nous parvient... par l'image, le son, la proximité, et puis ensuite, voilà, le déplacement de soi, de son corps, d'aller... Et même les endroits où on est allé enfant, par exemple. Les endroits où on est allé enfant, c'est vrai que si je considère ma propre vie ou celle de ma fille, moi je crois que la première fois où je prends l'avion, j'ai genre 18 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Ma fille, elle est presque née dans un avion. Voilà. Il y a quelques mois, quand elle prend son premier avion, pour elle c'est quelque chose de naturel. Mais au contraire, je pense que les lieux qu'elle connaît enfant ou qu'elle a aperçu, pour elle c'est des souvenirs très puissants où elle a qu'une envie, c'est d'y retourner, par exemple. Ou de donc je pense que voilà, ça, je pense pas fondamentalement que la relation au voyage. Après, il y a quelque chose de très différent, mais qui concerne plutôt d'ailleurs la génération de mes aînés. C'est cette forme atroce du voyage qui est la croisière de masse,
oui, mais alors...
le tourisme de masse. Voilà, ça me paraît peut-être plus inquiétant finalement que.
Pas que la relation. Pas que des aînés. Pas uniquement les aînés.
Pas uniquement les aînés,
oui. Bien sûr.
Ouais.
Non, mais de toute façon, le voyage, c'est effectivement un déplacement du corps. Bon, hein, déjà, ça, dans l'espace. Une expérience physique et sensorielle. Intellectuelle aussi, tout ce qu'on veut, mais comment dire, on peut voyager de différentes manières. On peut voyager en tourisme de masse, effectivement, ou du moins on peut voyager en ayant les yeux et les oreilles bouchées aussi, hein, bien entendu. Mais ça, comment savoir, ça dépend des individus. Si on n'est pas dans un état de porosité, dans un état où plutôt que de traverser les lieux, on se laisse traverser par les lieux, on voyage. Enfin, on échappe à une dimension essentielle du voyage qui est le dessaisissement de soi, quand même. Peut-être pour se retrouver, justement, comme disait madame, mais en tout cas, ça passe par un dessaisissement de soi, c'est sûr. Et ça, bon, on l'éprouve ou pas.
Bien, mais je voudrais vous renvoyer, bien sûr, au texte, à la lecture des textes. Vraiment, lisez Boussole, c'est chez Actes Sud. Lisez le Lausanne, Moscou, Pékin, c'est aux éditions de la Baconnière. Et puis, Tous les lointains sont bleus, c'est chez Phébus.
Et aussi Sadek et Dayat, si vous voulez, parce que je tiens
et aussi Sadek et Dayat, parce que moi, je fais partie de ceux, je voilà. pense... Bah,
il y a La Chouette Aveugle chez Corti, il y a aussi
aveugle,
des nouvelles, oui. Trois gouttes de sang chez Phébus,
ouais.
Et d'autres...
C'est bien de le citer, ouais, c'est très bien, c'est vrai. Ouais. Allez lire aussi Sadek et Dayat. Voilà. Merci infiniment à vous trois.